d'Europe, Léa Lisa Vesterov. Climate change is real.
Bonjour, c'est le nouvel objectif que s'est fixé l'Union européenne, celui de réduire d'un peu plus de la moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est moins que ce que demandaient le Parlement européen et les ONG, mais pour bon nombre de pays comme la Pologne, très dépendants du charbon, ça reste ambitieux. Les engagements sont donc pris. Maintenant, comment fait-on ? Direction la Grèce d'abord. Le pays est parvenu à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20% par rapport au niveau de 90. Joël Brunner, vous êtes notre correspondant à Athènes. Est-ce à dire que la Grèce est sur la bonne voie ? Comment s'explique cette baisse des émissions ?
Eh bien, en réalité, la crise de la dette publique qui a affecté la Grèce durant la décennie 2010 a eu un impact majeur sur la réduction de ses gaz à effet de serre. Un rapport de l'OCDE, qui date du mois d'octobre, indique en effet que ce qui explique en grande partie la baisse des émissions de gaz à effet de serre en Grèce au cours de la dernière décennie, c'est la crise économique qui a réduit la demande d'énergie. Même si l'organisation ajoute que le passage à une énergie plus propre a aussi joué un rôle. Concrètement, la Grèce a connu en 2005 un pic d'émissions de ces gaz, des émissions qui ont depuis baissé de 30%. Athènes a donc bien respecté ses engagements européens à l'horizon 2020. Mais en synthèse, le résultat final semble moins le fruit d'une politique volontariste et structurelle que d'une situation subie.
Dans ce cas, Joël, quelles sont les pistes de la Grèce pour poursuivre la réduction de ses gaz à effet de serre pour les 10 prochaines années ?
Le grand chantier énergétique de la Grèce, c'est la fin annoncée de l'exploitation des centrales à lignite pour produire de l'électricité. Le lignite, c'est une forme de charbon qui est notamment exploitée dans le nord du pays. D'ici à 2028, le lignite devrait ainsi être de l'histoire ancienne. C'est en tout cas l'objectif annoncé du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis et de son gouvernement conservateur. Économiste pour WWF, Olivier Vardakoulias est l'auteur d'un rapport consacré à la reprise verte en Grèce. S'il juge politiquement ambitieux de cesser rapidement l'exploitation du lignite, il soutient qu'Athènes pourrait aller bien plus loin en matière de long terme environnemental.
La production d'électricité sur base de lignite sera remplacée par la production d'électricité par l'utilisation de gaz naturel, ou de gaz fossile, comme on dit de nos jours. Remplacer le charbon par le gaz naturel, bon, c'est une politique qui réduit à court terme, en fait, de manière importante les gaz à effet de serre. Ceci dit, le problème ici, c'est aussi de maintenir, en fait, le système énergétique dans les énergies fossiles pour plusieurs décennies.
Énergie fossile plutôt que renouvelable, donc, c'est ça la prochaine étape pour la Grèce ?
Oui, et dans l'année qui vient, la Grèce va devoir ajuster son plan national pour l'énergie et le climat afin de se conformer aux nouveaux objectifs européens en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Tout reste à faire, donc on l'aura compris. Merci Joël Brunner, à bientôt. Le bâtiment et son isolation, c'est 17% des gaz à effet de serre dans le monde. Devenir climatiquement neutre passe donc forcément par la rénovation énergétique des logements. En France, le Haut Conseil pour le climat, une instance indépendante, demande dans son dernier rapport d'accélérer nettement les programmes de rénovation. Ils devront être 10 fois plus nombreux en 2030. La France donc plutôt à la traîne, mais certaines copropriétés privées s'attaquent désormais à l'isolation complète de leur immeuble. Frédéric Lebel est allé visiter un chantier dans le sud de Paris.
Un bâtiment de 14 étages, entièrement habillé de neuf. Jean-Jacques Loriot, président du conseil syndical, n'est pas peu fier de son chantier.
Là, on est en isolation extérieure, donc avec la laine de roche, 14 cm plus l'enduit, plus tout ça. Donc ça monte vite. Là. Après, bon, bah, là, c'est la première façade. Il y a encore les deux façades.
Voilà plus de 4 ans que les 80 propriétaires ont commencé à réfléchir à une rénovation thermique. Jean-Gérard Robichet, copropriétaire, est aussi retraité. Ça tombe bien, il faut beaucoup de temps pour se lancer dans l'aventure.
Jean-Jacques s'y investit vraiment énormément. Il épluche tous les documents, tous les comptes, les relations avec l'architecte, les entreprises, etc. Je dirais que c'est un travail à mi-temps ou un tiers de temps, mais c'est déjà pas mal.
Pour les aider, il y a l'Agence parisienne du climat créée en 2011 pour accompagner la capitale dans sa transition énergétique. Anne-Sophie Pouzol, chargée de mission copropriété, est là pour guider les particuliers dans la jungle des aides à la rénovation.
Les aides changent quasiment tous les ans, au mois de janvier, voire parfois plusieurs fois par an. Donc c'est là où on a un vrai rôle d'accompagnement, notamment des copropriétés qui font des projets sur plusieurs années. Et donc on leur donne déjà le cadre général au moment où ils nous appellent. Et ensuite on les encourage à être accompagnés par des professionnels de l'ingénierie financière pour vraiment avoir le cadre au moment où ils votent les travaux et au fur et à mesure.
Avec 0,2% de rénovation du bâti par an, la France démarre lentement dans la capitale. Les projets d'isolation complète par l'extérieur peuvent aussi ressembler à un casse-tête technique.
Sur Paris, effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de monuments historiques, fait qu'il y a un vrai travail sur l'architecture à avoir avec la ville de Paris et les architectes des bâtiments de France. Et puis, il y a les contraintes techniques habituelles pour mettre en œuvre des travaux en isolation par l'extérieur. Les bâtiments où il y a des toutes petites cours, il y a des normes incendies pour éviter la propagation des incendies dans ces petites cours. Donc parfois, c'est pas possible d'isoler par l'extérieur. Là, on est sur une copropriété des années 70, il y a de l'espace, donc on arrive à isoler sur la cour de manière assez facile.
Je passe devant vous.
Rue Castagnari, on n'a pas seulement ajouté une épaisseur de mur de 15 cm, on a aussi changé toute la chaudière de l'immeuble pour passer du fioul au gaz. Enfin, une bonne isolation, c'est aussi une bonne ventilation, nous explique Jean-Jacques Loriot.
Si on isole complètement, on va avoir une cocotte minute à l'intérieur et donc l'humidité qui sera dans les appartements sera néfaste pour le bien-être en fait, des résidents. Donc il faut absolument ventiler. Et il ne s'agit pas de faire des courants d'air ou l'équivalent d'ouvrir les fenêtres pendant 10 minutes toutes les heures. C'est de la ventilation programmée.
Dans l'immeuble, la nouvelle génération pousse à de nouvelles initiatives, du recyclage par exemple, et puis le Covid est passé par là, et des nouvelles habitudes de transport, Jean-Gérard Robichet.
Il y a effectivement l'aménagement du local à vélo. À partir du moment où de plus en plus de monde utilise son vélo au quotidien, effectivement il a fallu mettre un peu d'ordre là-dedans. Et un autre point sur lequel on va travailler, c'est l'électrification des parkings, c'est-à-dire l'installation de bornes électriques dans les parkings. On est bien obligé de s'adapter en sachant qu'il y a une loi quand même qui prévoit le droit à la borne. Donc à partir du moment où un copropriétaire nous demande de pouvoir disposer d'une borne, il va falloir lui donner satisfaction. Donc on est bien obligé.
Une spirale vertueuse qui pourrait faire des émules. Depuis sa création il y a 10 ans, l'Agence parisienne du climat a accompagné 2700 copropriétés sur la voie de la transition écologique.
Et une députée de La République En Marche vient justement d'écrire un rapport sur le sujet de l'isolation. Elle doit le présenter au Parlement début février. Sa conclusion, pour Marjolaine Meignier-Millefer, la France doit passer à la vitesse supérieure. Il faut que tous ses bâtiments soient passés à un niveau de basse consommation énergétique d'ici 2050.
On a 7,4 millions de passoires énergétiques en France. On dit qu'il y a à peu près 3,1 millions qui sont occupés par des ménages qui sont très modestes. Donc c'est à peu près la moitié qui sont occupés par des ménages très modestes. Aujourd'hui, c'est tout l'objectif des aides qui sont apportées à la rénovation énergétique qui vont permettre à ces ménages précaires de faire des travaux.
Et on va pouvoir arriver à faire ça sans contrainte ?
Le sujet, c'est qu'effectivement, on doit aller vers une logique d'aller plus vite. Ceci dit, les professionnels qui sont capables de répondre à ça, si demain on mettait une contrainte forte sur les gens, on aurait un marché qui serait pas capable de s'organiser en si court terme pour répondre à la demande. Aujourd'hui, si on parle par exemple du label RGE qui est reconnu garant de l'environnement, c'est un label de qualité qui est prévu, il y a environ 60 000 entreprises aujourd'hui qui ont ce label. Donc on voit bien qu'entre les 60 000 entreprises qui sont aujourd'hui labellisées RGE et les un petit peu moins de 500 000 entreprises qui font de la rénovation énergétique, on a de la marge pour en labelliser davantage.
Est-ce qu'il y a des bons exemples à piocher chez nos voisins européens ?
Alors absolument, il y a de très bons exemples à aller chercher du côté par exemple de l'Allemagne. En gros, ils conditionnent les aides, notamment au fait que les aides soient systématiquement accompagnées par un spécialiste qui va accompagner le chantier. Et donc la qualité, elle augmente de fait. Une autre chose que l'Allemagne fait très bien, c'est qu'elle a une banque publique qui concentre toutes les aides à la rénovation énergétique. Et donc ça, c'est aussi un outil de simplification pour les aides. Aux Pays-Bas, ils ont travaillé sur la gouvernance du secteur et ils ont fait énormément de travaux pour sortir du chauffage carboné. La Suède est aujourd'hui le seul pays européen à avoir un parc quasi décarboné aujourd'hui. La raison pour laquelle la Suède est si bonne, c'est parce que très tôt, dans les années 70, ils ont mis en œuvre des règles de construction qui étaient très ambitieuses, autant que celles que nous on avait en 2012. Et donc du coup, la qualité du bâti suédois est meilleure et en plus, ils ont switché très vite sur plutôt les réseaux de chaleur par le recyclage de la chaleur d'outils industriels qui est récupéré pour chauffer, soit parce qu'ils ont utiliser par exemple les déchets pour les valoriser en termes de chauffage. Et donc tous ces réseaux de chaleur-là en Suède sont très performants.
Marjolaine Meignet-Millefer était au micro de Frédéric Lebel. Le Royaume-Uni fait partie des bons élèves de la lutte contre le changement climatique, sur le papier en tout cas, car le pays a réussi un tour de force, réduire ses émissions carbone par habitant de 44% entre 90 et 2018, alors même que son économie progressait de 75%. Une réduction due en partie à la baisse d'utilisation du charbon pour générer l'électricité en faveur du gaz et des énergies renouvelables. Mais ces annonces n'empêchent pas certaines contradictions, comme la décision cette semaine d'ouvrir une mine de charbon souterraine dans le nord-ouest du pays. Retour sur la stratégie environnementale anglaise avec Marie Billon.
Le Royaume-Uni aime être le premier, le plus fort. Parfois c'est de la vantardise éhontée, mais pour la lutte contre le changement climatique, Londres est en effet plus ambitieuse que d'autres. En mai 2019, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à déclarer l'urgence climatique. C'est sur proposition de l'opposition travailliste que la motion a été votée par le Parlement. Une idée populaire qui surfait sur la vague des manifestations du groupe de pression Extinction Rebellion qui avait réussi à bloquer le centre de Londres pendant plusieurs jours. Les annonces pour le climat ont depuis été largement éclipsées au Royaume-Uni par la crise sanitaire et par le Brexit. Mais Boris Johnson s'est servi de la plateforme internationale qui était le sommet Ambition Climat virtuel qu'il a co-organisé en décembre pour fixer un objectif ambitieux, une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 68% d'ici à la fin de 2030 par rapport au niveau des émissions nationales en 1990. La stratégie comprend notamment une réduction de l'utilisation des énergies fossiles, le développement de méthodes pour la capture carbone, mais aussi des programmes visant à mieux isoler les habitations individuelles. Le Royaume-Uni prend ainsi la tête des pays occidentaux sur le terrain des contributions nationales à la réduction du changement climatique dans le cadre de l'accord de Paris de 2015. Le 11 janvier, Boris Johnson a aussi annoncé, avec moins de fanfare, l'équivalent de plus de 3 millions d'euros pour des solutions climatiques qui protègent et restaurent la nature et la biodiversité sur 5 ans. Le Premier ministre a aussi mis l'environnement au cœur du remplacement de la politique agricole commune en quittant l'Union européenne. Des engagements qui sont populaires mais qui n'en sont qu'au stade de projet. En attendant, ce petit boost de popularité ne fait pas de mal à un Premier ministre qui personnellement est très impopulaire en ce moment.
Sur le continent européen, la Russie représente à elle seule 4,7% des émissions mondiales. Derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde, c'est le quatrième émetteur mondial de gaz à effet de serre. Et ce, malgré sa ratification l'année dernière des accords de Paris, Jean Cassais.
Oui, la Russie ne s'est toujours pas dotée d'une législation contraignante ni d'objectifs écologiques clairs. Résultat, le pays est l'un des plus mauvais élèves mondiaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En cause d'une industrie encore très importante mais vieillissante qui ne prend pas suffisamment en compte les enjeux écologiques, d'après le docteur Alexei Kokorin, directeur du programme Climat et Énergie chez WWF Recherche.
La Russie est l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, tout simplement parce que son économie est grande. Mais si l'on compte le niveau d'émissions par rapport au PIB, la Russie émet énormément. C'est parce que l'efficacité énergétique, les économies d'énergie sont très peu développées en Russie.
La faute, selon Alexei Kokorin, à un manque d'investissement russe et étranger dans les technologies de réduction des émissions et de verdissement des bâtiments, et puis aussi à un mythe tenace selon lequel la Russie ferait partie des gagnants potentiels d'un réchauffement de la planète, avec entre autres l'apparition de nouvelles terres agricoles et un accès plus facile aux ressources naturelles de la Sibérie. Plus qu'un réchauffement climatique qui ferait gagner à la Russie quelques degrés et la rendrait plus vivable, c'est le dérèglement climatique qui la menace. Tous les étés, des feux de plus en plus violents ravagent les forêts de Sibérie. Tous les automnes, les inondations s'y font plus graves. Et même dans le Grand Nord, la lente fonte du permafrost, cette couche de terre gelée qui recouvre 60% du territoire russe, met en péril des villes entières construites sur sa surface, sans parler des installations gazières et pétrolières qui font la richesse de la Russie. Mais pour l'instant, son gouvernement n'a toujours pas mis en place de réelle politique de réduction des gaz à effet de serre.
C'est une tradition, même une institution. Chaque année en Allemagne, un jury composé de linguistes et de journalistes élit un non-mot, un terme qui a marqué l'année écoulée par son utilisation trompeuse. Sans surprise, cette année, le choix a été influencé par le contexte de crise sanitaire. C'est notre chronique en un mot avec Julien Méchaussy à Berlin.
Corona-dictature, la dictature du coronavirus. Comme tous les ans, le non-mot de l'année a droit aux honneurs de tous les médias allemands, comme ici dans le grand journal du soir de l'ARD, la première chaîne de la télévision publique. L'Allemagne fait partie de ces pays européens qui connaissent une forte mobilisation, parfois violente, de citoyens qui rejettent les mesures sanitaires, voire nient l'existence même du virus. Avec ce terme donc, corona-dictature, qui revient dans toutes les manifestations et laisserait à penser que l'Allemagne serait devenue une dictature. Nina Jani, linguiste et membre du jury, explique le choix de ce non-mot.
L'utilisation de ce terme entraîne une banalisation de ce qu'est vraiment une dictature. Nous vivons certes dans une démocratie qui nous garantit le droit de protester, de nous élever contre certaines décisions, mais cette expression minimise la véritable nature d'une dictature et dénigre également les souffrances des personnes qui vivent sous un tel régime. Cette expression est tout simplement fausse, elle ne reflète aucune réalité. Et par notre choix, nous avons voulu en dénoncer son utilisation.
Le jury a reçu près de 2000 propositions, dont les trois quarts avaient attrait à la crise sanitaire. Nina Janich tient cependant à préciser que le jury ne souhaite en aucun cas interdire tel ou tel terme, ni pratiquer une certaine censure.
Pour notre jury, un non-mot est un terme dont l'utilisation est discriminatoire, diffamatoire ou bien trompeuse. Une utilisation qui cherche à masquer la réalité en jouant sur l'euphémisation, c'est-à-dire en adoucissant un discours plus violent.
Nina Janich fait ici référence à une première en presque 30 années d'existence de ce prix peu ordinaire. Un second terme est arrivé à la première place des votes. Rückführungspatenschaften, soit les parrainages au retour, terme créé par la Commission européenne et présent dans son nouveau pacte migratoire en lieu et place de celui d'expulsion. Un mot comme seul l'allemand en a le secret, une langue qui fonctionne sur le principe de briques de construction et peut inventer des mots à l'infini en associant plusieurs termes.
L'association des termes parrainage et retour, alors qu'il s'agit uniquement d'expulsion pure et simple, n'est rien d'autre que du cynisme. À l'origine, le parrain est une personne qui protège une personne en danger. Et ce terme s'applique ici à des pays qui doivent prendre la responsabilité d'expulser des personnes. Nous voyons donc bien ici que l'utilisation de ce mot, dans ce contexte, est un non-sens marqué par le cynisme.
Un cynisme dénoncé déjà en 2018 par ce même jury qui avait porté son choix sur l'expression de l'industrie anti-expulsion, censée dénoncer associations et citoyens allemands engagés auprès de personnes menacées d'expulsion. Un engagement humanitaire retourné avec cette expression en une simple source de revenus.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur notre site rfi.fr ou via notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À demain!